Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'époque est-elle conservatrice? Au-delà des partis, il acte le retour d'une pensée anti-progressiste renouvelée. L'historien Olivier Dard est notre invité à l'occasion de la parution du dictionnaire du conservatisme aux éditions du Cerf. Et il est à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, un drôle d'oiseau, des mises en scène riches et colorées pour celui qui redoute toujours de s'ennuyer. Le metteur en scène Laurent Pellier est à Paris pour une double actualité, l'une à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Bastille, avec une double affiche, L'heure espagnole et Giannis Kiki, l'autre, L'oiseau vert, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Toutes les dates des spectacles à retrouver sur la page de la Grande Table sur franceculture.fr et Laurent Pelli à écouter tout de suite sur l'antenne de France Culture.
Grande Table, Olivia Gesbert.
Il a fait ses débuts avec le Pélican, sa compagnie, avant de rejoindre Grenoble, puis Toulouse pour diriger le TNT qu'il vient de quitter. Après 10 années à sa tête, une direction bicéphale avec Agathe Mélinon. Laurent Pelli, bonjour.
Bonjour.
En solo ou en tandem, vous volez désormais de vos propres ailes, sans le poids ou l'appui d'une institution?
Oui, 24 ans, Grenoble et Toulouse, donc on a un peu, Agathe Mélinon et moi, on a un peu envie de changer de manière de travailler. On verra, quoi. C'est un peu l'aventure, une nouvelle aventure qui commence.
Mais ça n'a pas l'air d'être un grand saut dans le vide, vu le nombre de projets déjà en route.
Non, mais en même temps, 10 ans de Toulouse, c'était génial parce que Toulouse, c'est le théâtre de Toulouse est un lieu, un outil extraordinaire. Mais Toulouse est une ville un peu enclavée, c'est très difficile de faire venir du monde, c'est très difficile de faire venir des gens de Paris. Donc là, tout d'un coup, se retrouver à Paris avec 2 spectacles et puis d'envisager des projets dans des théâtres différents, comme le théâtre de la Porte Saint-Martin, de pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est très excitant.
Justement, à l'heure où on parle beaucoup de décentralisation culturelle, acte 2 ou pas, un mot de cette situation, cette décentralisation que vous, dont vous défendez l'héritage, en quoi elle vous semble menacée aujourd'hui et comment est-ce qu'elle pourrait au contraire être soutenue et améliorée par les pouvoirs publics, par l'État ?
Vaste question. Moi, j'ai toujours connu, en 24 ans de décentralisation, la plupart des acteurs culturels se dire menacés de quelque chose. Je trouve que la France est un pays où il y a une proposition, ne serait-ce que dans le domaine du théâtre, extraordinaire. Je travaille beaucoup à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis, ou en Angleterre, et la situation est tellement différente dans tous ces pays. Je trouve que c'est plutôt les centres dramatiques nationaux qui ont un regard un peu désabusé ou un peu déçu sur ce qui pourrait se passer. Il y a forcément des choses à développer, il y a l'impression de pas être reconnu. En même temps, ce sont des moyens considérables, des outils la plupart du temps magnifiques. Il y a une chose qui est incroyable quand on est directeur de centre dramatique et metteur en scène, c'est que pour représenter les spectacles à Paris, c'est très difficile, par exemple. Donc c'est très difficile de pouvoir... On n'a pas le droit, quand on dirige un centre dramatique, de perdre de l'argent dans le théâtre privé, par exemple, où c'est très difficile donc de trouver un lieu avec un plateau suffisamment grand, etc. Voilà, ce sont des choses qui pourraient être, bien sûr, développées.
Une liberté retrouvée, ça se fait, et pour ce faire, vous êtes partie à New York pour plusieurs représentations de Cendrillon, de Jules Massenet au Met, avec la mezzo-soprano Joyce Di Donato dans le rôle titre. De retour à Paris, on vous retrouve en ce moment à l'Opéra de Paris pour Giannis Kiki de Puccini, précédé de L'heure espagnole de Ravel, extrait, je rappelle juste, le décor, le mari horloger, la femme volage, les amants qui jouent au coucou suisse.
Dieu, ces mulottiers ne fâchent pas Oh oh, ah, ils sont cette belle. Oh oh,
chien, l'orange.
Oh oh,
comment les grands Saint-Jacques de Compostelle et le moment être choisi pour parler de coucou ici.
Oh oh.
De l'heure espagnole de Ravel que vous avez mise en scène actuellement à voir à l'Opéra de Paris avec à la baguette le jeune chef Maxime Pascal. L'heure espagnole, c'est une œuvre en un seul acte de Ravel composée pour son père, ingénieur suisse passionné de mécanique, première œuvre lyrique que Ravel a achevée. C'est une œuvre de jeunesse, pourrait-on dire, tandis que Giannis Kiki est le dernier opéra terminé de Puccini, écrit dans l'héritage de Verdi. Quelle complémentarité vous avez trouvé? C'est vous qui avez choisi de les associer, ces deux œuvres?
Non, c'est un projet qui est très ancien, puisqu'on a fait la création de ce spectacle au Japon avec Seiji Ozawa il y a 14 ans, et qu'on a repris à l'Opéra de Paris il y a 13 ans. C'est Hugues Gall qui était directeur de l'Opéra de Paris à l'époque, qui avait eu l'idée de réunir les deux. Ce qui est magique aussi avec ces deux œuvres, c'est que sont deux œuvres bourrées d'humour dans deux styles différents. L'un, pour moi, est une espèce de comédie pré-surréaliste. Il y a quelque chose de complètement fou dans cette quête du plaisir et dans l'idée de la frustration de cette femme. Il y a quelque chose de extrêmement humain, extrêmement fort. Et puis Skiki, c'est plus, on est plus proche de la commedia dell'arte, on est sur l'idée de la cupidité, c'est ce groupe de bourgeois qui deviennent des gangsters finalement. C'est un regard très caustique aussi, qui pourrait digne de la commedia dell'arte, mais aussi du cinéma italien des années 50. Donc j'ai tout de suite pensé, quand j'ai monté le spectacle, au film de Dino Risi, Les Monstres ou Les Nouveaux Monstres, qui montrent des gens comme ça affreux, fort sympathiques, mais affreux dans leur détermination.
On sent quand même l'influence du cinéma dans l'ensemble de vos mises en scène. Alors vous citez le cinéma italien qui vous a peut-être marqué plus que tout autre. On pourrait aussi vous rapprocher d'univers féeriques comme ceux de Tim Burton. On peut aussi imaginer vous rapprocher en termes d'affinité du britannique Terry Gilliam. Son film L'homme qui tue Don Quichotte, projet de 20 ans, est enfin en salle. Le héros de Cervantes, protagoniste avant cela d'un opéra de Jules Massenet que vous avez joué, monté notamment en 2010 à la Monnaie de Bruxelles. Monsieur Montépiton, qui vient à son tour de monter l'opéra maudit de Berlioz, le Benvenuto Cellini. Je vous propose de l'écouter.
Opera was the art of another time.
Mais vous savez, c'était l'art d'un autre temps. Peut-être pas que c'est pas vraiment un art de notre temps.
But it, what I like about it,
mais ce que j'aime, c'est que l'opéra est grandiose.
Opera is not naturalistic.
L'opéra, ça n'est pas quelque chose de naturaliste. Et c'est ça que j'aime.
I can be like a cartoonist.
Je peux y être comme finalement un dessinateur de BD.
Distort things.
Je peux transformer les choses.
Just, I can make things more grotesque.
Je peux rendre les choses plus grotesques.
I mean, I think one of our great moments.
Je trouve que notre grand moment pendant le spectacle, c'est la pantomime.
Which is really vulgar.
Parce qu'elle est vraiment vulgaire.
Really good.
Elle est vraiment chouette.
Separate, we've got two groups,
et on a deux groupes, on a les riches et les pauvres sur le plateau.
Between,
et entre eux,
we hopefully do things that embarrass
on essaie
people.
De faire des choses et de montrer des choses qui seront un peu embarrassantes pour certains,
but
je l'espère.
The audience will find it funny.
Mais peut-être que le public va trouver ça drôle.
Most operas I go to,
la plupart des opéras, que je vois ne m'intéresse pas beaucoup, parce qu'il y a une seule note, un seul thème. Alors que chez Berlioz, il y a tellement de choses profondes, tragiques, comiques, il y a beaucoup un ton très très varié. Je trouve qu'il y a beaucoup de prétention dans l'opéra. Et moi, j'essaie de faire éclater ça, de m'en débarrasser.
Laurent Pelly, vous êtes d'accord avec Terry Gilliam? L'opéra n'est pas un art de notre temps?
Si. Je trouve que c'est un art de notre temps, parce que je trouve que c'est quelque chose de très concret, très présent. Les chanteurs, aujourd'hui, quand vous travaillez avec des chanteurs qui jouent un personnage ou qui jouent une œuvre devant 3000 personnes, que ce soit à Paris ou à New York, il y a comme dit, un impact qui est direct, qui est très, finalement très contemporain et qui reste toujours actuel.
Là, vous avez chiné, par exemple, pour ces deux opéras, hein, d'ailleurs, surtout pour le premier, pour l'heure espagnole, pour les décors, avec vos équipes, un certain nombre d'objets. Vous jouez même sur l'accumulation à la fois des horloges. On va retrouver aussi dans le décor une machine à laver qui peut permettre, dans les imaginaires, de faire se télescoper aussi des temporalités différentes, moderniser, réactualiser un répertoire. Ça passe aussi par une manière de jouer et de chanter.
Ça passe par une manière d'interpréter, bien sûr, mais quand on parle de Skiki et de l'heure espagnole, ce sont des œuvres exceptionnelles dans leur théâtralité. Il y a assez peu d'œuvres dans le répertoire de l'opéra qui sont de cette nature. L'heure espagnole, c'est du dialogue chanté. Skiki, c'est presque du dialogue chanté, parce qu'il y a trois airs, je crois, à peu près. Donc, du dialogue chanté.
Alors l'un en français, l'autre en italien.
Voilà, l'un en français, l'autre en italien. C'est forcément des choses qui doivent être jouées et interprétées comme du théâtre. De toute façon, il n'y a pas de, on n'est pas du tout dans la même problématique quand on monte une œuvre plus ancienne, ou que ce soit de l'opéra baroque ou du bel canto, ou même des choses plus proches de nous comme Donizetti. Enfin, là, on est dans des problèmes de temps, de temporalité, qui sont beaucoup plus compliqués à gérer pour un metteur en scène. Skiki, l'heure espagnole, moi j'ai l'impression de faire le même métier que quand je monte une pièce de théâtre, vraiment. Et les chanteurs d'aujourd'hui, les jeunes chanteurs qui, la plupart sont des jeunes chanteurs français dans les deux ouvrages, sont des gens aujourd'hui qui sont passionnés par et très intrigués, intéressés et curieux de la chose théâtrale. Donc c'est un vrai plaisir.
Donc vous avez l'impression de faire en gros le même travail que vous avez fait pour le théâtre avec L'Oiseau Vert, fable, autre récit merveilleux, mais est-ce que vous avez l'impression de faire aussi le même boulot que quand vous montez Shakespeare, que vous avez beaucoup pratiqué, hein, du Songe d'une nuit d'été à Macbeth, à Peine d'amour perdu? Il y a des passerelles?
Il y a des passerelles évidentes entre L'Oiseau Vert et, enfin, entre l'œuvre de Carlo Gozzi et Shakespeare. Je pense qu'il avait dû lire Shakespeare, je ne sais pas en quelle langue, mais en tout cas, L'Oiseau Vert, c'est une pièce qui parle de l'humanité, qui parle de l'affreuse vanité qui est de l'indécrottable vanité de l'humanité, et je pense que ça parle aussi dans Shakespeare. On parle de tout. Alors Shakespeare, je rêve de monter tout Shakespeare, je rêve de pouvoir me noyer dans Shakespeare, parce que Shakespeare parle de tout. Shakespeare raconte tout, raconte, s'amuse de tout, raconte, parle de tous les drames, de toutes les horreurs, mais en même temps fait rêver. Alors chez Gozzi, ce qui est très différent, c'est qu'on est dans un répertoire de commedia dell'arte, dans un code très particulier, qui est le milieu du XVIIIe siècle, que lui-même était défenseur de cette forme de théâtre. Donc il a fallu nous réinterpréter ce pour un public d'aujourd'hui, la commedia dell'arte. Je me suis un peu égaré là dans ce que j'avais à dire, mais
facilement, parce que le texte est quand même très imagé aussi, vous diriez, Laurent Pelly.
Le texte de Gozzi, il est multiple, il est inouï, parce qu'il est très drôle, il est affreux, un peu comme ce qu'on disait sur Skiki, il est affreux. La traduction d'Agathe Mélinan, elle rend ça, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, c'est un texte qui est écrit en vénitien et en italien et en vers martellien. Donc c'est un texte compliqué à...
Et là, vous avez travaillé avec une nouvelle traduction.
Voilà, non, Agathe Médinan a fait la traduction. Alors, bien sûr, chaque personnage a son vocabulaire, chaque personnage a son langage. On est à la fois dans le conte de fées, dans la farce la plus triviale, dans le voyage initiatique. Pour moi, c'est une œuvre unique en son genre. L'œuvre de Gozzi, on connaît Gozzi aujourd'hui par l'opéra, ce qui est quand même inouï. Gozzi est complètement oublié, puisque c'était le grand rival de Goldoni. Goldoni, c'est le grand auteur italien. Mais on connaît Gozzi par L'amour des trois oranges de Prokofiev ou Turandot de Puccini, qui sont deux pièces à l'origine de Carlo Gozzi.
Extrait.
Écoute ma philosophie, nous n'avons pas de père, nous n'avons pas de mère, nous sommes donc libres, libérés. Nous n'avons même pas à souhaiter la mort de nos parents pour en hériter. Et dépenser tout cet argent en ce que coûtent les passions humaines, bah, tu vois, d'un mal découle toujours un bien. Parlons plutôt d'autre chose. As-tu quelqu'un amoureux ?
Non, Renzo, je n'ai personne, je t'assure.
Moi non plus. Aucune amoureuse. Pas de désir fou, pas de passion dangereuse, pas de galanterie joyeuse qui ridiculise les prétendants et font transpirer les usuriers. C'est un bienfait qui nous paye largement de noyaux. Il ne faut jamais nous habituer à ce que ce siècle nomme confort et délice. Pas d'amitié, pas d'affection, car nous savons, nous, que tout homme ou femme n'agit que par amour pour lui. Adoptons une maxime. Les êtres humains sont orgueilleux, avares, vains, vindicatifs, en somme, impraticables. Que cette philosophie nous nourrisse. Dépouillons-nous tout à fait de l'amour propre et nous serons heureux. Partons, ma sœur.
Alors, dans cet oiseau vert qui se joue donc actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin, il y a des ingrédients du conte traditionnel, d'autres du conte philosophique. Et en même temps, c'est une pièce qui se moque aussi allègrement de l'esprit de la philosophie des Lumières, qui est totalement transgressive en ce sens-là. Et j'en reviens à la mécanique qui est intéressante aussi sur la scène de l'opéra Bastille actuellement pour cette double affiche Ravel-Puccini. Ce goût pour la machinerie qui est aussi le vôtre dans la scénographie. Pour que ça marche, il faut toujours une mécanique de précision, au théâtre comme à l'opéra, Laurent Pelli. Qu'est-ce qui peut rapidement constituer une sorte de grain de sable qui peut faire enrayer la machine ou le balancier quand on monte ce type
de
pièce ?
Le comique, de toute façon, nécessite une mécanique extrêmement précise sur l'oiseau vert. Alors, à l'opéra, c'est un peu différent parce que le metteur en scène n'est pas seul maître à bord. Donc, c'est un travail aussi fort avec le chef d'orchestre. Le travail avec Maxime Pascal, qui abordait ces deux œuvres pour la première fois, a été très important. On peut faire qu'une œuvre ne marche ou marche pas en fonction du rythme, en fonction de... c'est une espèce de magie mystérieuse. Et au théâtre, on continue. On a joué l'oiseau vert, je sais pas, au moins 80 fois. On a la sixième représentation à Saint-Martin, ou peut-être de la Porte Saint-Martin. On continue à régler petit à petit les choses pour que ça fonctionne. Vous demandiez, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas ? Par exemple, sur l'heure espagnole, ce qui est en répétition, par moment, ça ne marchait pas parce que il faut toujours qu'il y ait une sorte d'urgence des personnages, notamment du personnage de Concepción qui tient l'histoire du début à la fin. Si les personnages s'installent dans un rythme confortable, l'œuvre, elle marche plus. Parce que ça s'appelle l'heure espagnole, parce qu'il faut absolument qu'au bout de cette heure, elle ait trouvé son amant et qu'elle ait eu son plaisir. Le rythme, il est interne. Le rythme, il est... Et sur le l'oiseau vert, c'est presque la même chose. Il y a cette urgence qui doit presque donner le vertige au spectateur.
Le grotesque, l'outrance, l'extravagance, la satire, l'opéra, comme le théâtre autorise tout, si tant est qu'on trouve le bon équilibre. Une complicité autour d'Offenbach, mais aussi Rameau et Ravel. Le chef d'orchestre Marc Minkowski, directeur général aujourd'hui de l'Opéra National de Bordeaux, avec qui vous avez beaucoup travaillé, évoquait justement ce que vous venez d'aborder, le rôle du chef d'orchestre par rapport au compositeur.
Le chef d'orchestre est le dramaturge du compositeur. Quand je dis dramaturge, c'est une fonction bizarroïde que les Allemands ont un peu trop développée dans le théâtre contemporain. Non, mais dramaturge, c'est-à-dire on est le médium qui explique à une belle masse ce qui est écrit sur le papier. Quand je dis écrit, expliquer, c'est pas forcément le solfège, etc., parce que ça, les gens sont des professionnels. Et... Non, mais c'est qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que le compositeur a dans la tête et qu'est-ce qu'il veut représenter au moment où arrive, je ne sais pas, un accent, un gros sforzando, est-ce que pourquoi? Et dans l'opéra, si c'est au premier acte, quelle est l'atmosphère? Si c'est au quatrième acte et qu'on est plutôt dans un nocturne, dans les Noces de Figaro, quoi, comment? La couleur, travailler sur la couleur, travailler sur la nuance, sur la fragilité. Des choses que les musiciens ont besoin d'entendre aussi et surtout oui voilà le pourquoi et le comment.
Le chef d'orchestre et le dramaturge du compositeur, mais alors le metteur en scène dans tout ça, il est où? C'est forcément la troisième pièce de ce trio qui se joue sur la scène d'un opéra, entre l'orchestre et la scène en tout cas. Quelle place occupe-t-il entre le compositeur et le chef d'orchestre?
Pour moi, le chef d'orchestre doit travailler main dans la main avec le metteur en scène ou inversement. Je peux pas imaginer un travail ça m'est arrivé hein, de travailler tout seul, enfin sans chef d'orchestre, et puis le chef d'orchestre arrive à la fin des répétitions. Alors ça, c'est jamais intéressant parce que il y a la vision, elle est commune. Moi, j'adore écouter Marc, par exemple, parler de la dramaturgie, de comment il parlait de la couleur. Mais c'est vrai que c'est lui qui donne cette couleur. C'est lui qui invente le rythme. Au théâtre, c'est différent puisqu'on doit trouver le metteur en scène avec les comédiens, doit trouver le rythme, le bon rythme, doit inventer la manière de raconter son histoire. Là, on est forcément à deux. C'est ensemble, c'est l'image, c'est vraiment ensemble, quoi. Il n'y a pas de... Moi, je pense que toujours la musique doit être inscrite dans le corps des chanteurs. Et ça, c'est avec le chef d'orchestre que ça se fait. Il n'y a pas de doute.
Il y a une dimension, on le disait, onirique au théâtre comme à l'opéra. Dans beaucoup de vos pièces, œuvres montées aujourd'hui encore, Laurent Pelly, le théâtre, l'opéra, reste un spectacle avant tout. Ça doit créer chez le spectateur cette part d'enchantement, ce réveil des sens aussi.
Alors à l'opéra, c'est sûr, à partir du moment où on accepte de la convention qu'un personnage, quand il s'exprime, ne parle pas mais chante, forcément ça ouvre les portes de l'infini, du no limit. Pour moi, l'opéra, c'est l'art absolu parce que ça touche à tout. Au théâtre, c'est différent, il n'y a pas de... Il y a tellement de manières de raconter des histoires et tellement de styles de théâtre. Alors moi, je suis un peu obsédé par la narration onirique. Voilà, c'est un truc qui me tient depuis toujours. Puis ça, c'est l'influence aussi d'un certain cinéma. Mais je me suis toujours passé par là pour raconter des histoires.
On se quitte avec quelques notes et les voix de cet opéra, celui de Giannis Kiki, qu'on n'a pas encore écouté ou donné à entendre à ceux qui nous écoutent. Rappelons que Giannis Kiki, c'est ce personnage de faussaire qui fait si bien les choses, une famille qui se dispute ou qui souhaiterait revoir l'héritage qu'un oncle leur a délivré et il vient les aider. Mais faut faire attention parce que le faussaire est toujours le plus rusé d'entre tous. Merci beaucoup à vous, Laurent Pelly.
Merci mille fois.